France Inter. L'heure philo. Bienvenue dans l'heure philo et bonne année à vous de la part de toute l'équipe. Lilian Allôme à la réalisation, Chantal Le Montagnier à la préparation et Djoubaka au choix des disques. C'est un florilège que nous vous proposons pour cette première émission de l'année, essentiellement trois extraits dont j'espère qu'ils vous plairont. Souleymane Bachir Diagne, que nous avons reçu ici à plusieurs reprises, il a résolument choisi d'avoir foi en l'humain et de défendre l'universel comme l'œuvre commune de l'humanité. Pierre-Yves Kivigère nous invitera, lui, à sa philosophie du vin, philosophons à gogo et buvons avec modération. Quant à Marianne Chaillan et Amélie Nothomb, nous les avions invitées pour évoquer le sens d'une vie qui passe ou non par l'écriture. C'était le 27 septembre dernier. Elles se connaissent bien, elles étaient du reste très heureuses de se rencontrer. Marianne Chaillan a publié « Écrire sa vie », c'est aux éditions de l'Observatoire.
L'heure philo. Patricia Martin sur France Inter.
Amélie Nothomb, à quel moment de votre vie avez-vous su quelle était votre rime précisément ?
Je pense que je l'ai su quand j'ai atteint le fond de l'humiliation. À force de récurer des chiottes dans ma société japonaise où j'ai été, je le rappelle, dame pipi pendant 9 mois. Bon, c'était de pire en pire, hein. Le jour où le grand patron est venu me gueuler dessus parce que j'avais oublié de remettre du papier dans un des chiottes. Et je me suis dit, bon, il est donc possible que je me fasse hurler dessus dans des chiottes parce que j'ai oublié de mettre du papier. Je peux pas tomber plus bas que ça. Je peux pas tomber plus bas que ça. Donc là, j'ai atteint le fond de l'humiliation. Donc n'ayons plus peur de rien. Je vais essayer d'envoyer mes manuscrits à une maison d'édition parce que, quelle que soit leur réaction, je m'en fous. Maintenant, je m'en fous. Et c'est vraiment ça qui m'en a donné le courage.
Mais est-ce que vous avez l'impression à ce moment-là d'avoir fait votre cette phrase de Pindare, « Deviens qui tu es ».
Oh, je n'en étais pas là, vous savez. Franchement, c'était la
philosophie. On peut penser à Pindare partout. Hein.
J'aurais pu en effet penser à Pindare, mais là j'en étais au point où tu en es. C'était la philosophie du « au point où tu en es ». Vas-y, maintenant, t'as vraiment plus de raison d'avoir peur.
Mais quelle leçon de vie en même temps, non ? Marianne Chaillan.
L'histoire d'Amélie ?
Oui.
Ah oui, qui m'a inspirée d'ailleurs.
Oui, ça on va en parler, ça
mais
vous a sacrément inspirée.
Je pensais à la fin de Ni d'Ève ni d'Adam, quand Amélie quitte le Japon. Et... Alors est-ce moi qui imagine que c'est, parce que je sais que j'ai fait un lien avec Nietzsche, que c'était l'aurore, ou l'aurore s'est-elle levée durant ce vol en tout cas ? Au moment où vous partez, c'est suite à un non.
Oui.
Un non à une demande en mariage, mais que j'interprétais comme un grand oui vers ce qui allait être votre rime, c'est-à-dire, eh bien maintenant, l'aventure de l'écriture allait occuper le devant de la scène.
C'était concomitant. L'humiliation professionnelle était concomitante de cette demande à mariage absolument singulière. Comme j'avais donné la mauvaise réponse, il ne me restait plus qu'à m'enfuir. Donc je devais m'enfuir pour cause de Madame Pipi, mais aussi pour cause de mauvaise réponse à une demande en mariage.
Mais est-ce qu'il vous est déjà arrivé tout simplement de vous dire « je me suis trompée de vie » ?
Jamais. Je dirais que je me trompe dans énormément de cas, mais pas de vie. Je peux me tromper dans mes amours. Bien sûr, ça m'est arrivé. Mais dans ma vie, non.
Les choix ont donc toujours été bons ou ça s'est fait presque malgré vous ?
Ça s'est quand même fait presque malgré moi. Malgré tout ce que j'ai dit tout à l'heure par rapport aux chiottes et tout, il y avait quand même... Bon, ce qui n'était pas de mon choix, c'est que j'écrivais quand même déjà à ce moment-là. Ouais. Et à ce moment-là, honnêtement, je ne savais pas pourquoi j'écrivais. Je n'en avais aucune idée. Je devais le faire. Et je le faisais depuis longtemps déjà. Mais sans savoir le moins du monde pourquoi. Et ça, ce n'est pas un choix.
Vous lisez des philosophes, Amélie Nothomb ?
Je lis Marianne Chaillan.
Non, mais vous lisez Nietzsche.
Alors, j'ai lu Nietzsche quand j'étais beaucoup plus jeune. Oui. C'était donc il y a un peu longtemps. Et Nietzsche a énormément compté pour moi. Mais je mentirais en disant que je le connais par cœur. Mais il y a des passages de Nietzsche qui m'animent tous les jours.
La généalogie de la morale, notamment.
Oui, bien sûr. Ouais. Mais même énormément, quand il dit « je détournerai le regard », le nombre de fois par jour que je pense « bon, désormais, je détournerai le regard ». Mais bon, ça devient difficile, le nombre de choses dont il faut détourner le regard. On se demande ce qu'on peut encore regarder.
Mais un livre peut changer une vie. Un roman, oui, on le sait, mais un livre philosophique peut changer votre vie.
Très profondément. Déjà, Nietzsche a changé ma vie quand j'avais 17 ans, mais aussi un autre livre qui est plus de la poésie que de la philosophie, qui est Les lettres à un jeune poète de Rainer Maria Rilke, ça a été le livre qui a le plus changé ma vie. C'est une interrogation à la vocation humaine.
Amélie Nothomb, est-ce que vous reprendriez à votre compte ces propos de Lévinas, le meilleur chemin pour aller vers soi passe par les autres ?
Je suis tout à fait d'accord, j'aurais pas trouvé une formulation aussi géniale que ça. Pour moi, le but, c'est vraiment de rencontrer l'autre, mais c'est tout à fait vrai que pour rencontrer l'autre, il faut se livrer. C'est très étrange.
Est-ce que vous pensez que votre vie aurait été différente si vous n'aviez pas, je dis même pas écrit, mais publié ? Et à l'inverse, est-ce que vos livres seraient différents si vous aviez eu une autre vie ?
Ma vie serait radicalement différente si je n'avais pas publié. Et j'aurais certainement continué à écrire, puisque j'écrivais de toute façon, mais mes livres seraient profondément différents. Le fait de découvrir qu'il y avait quelqu'un de l'autre côté du papier, ça a considérablement changé non seulement ma vie, mais ma façon d'écrire.
J'ai pensé aussi à une chose, vous concernant Amélie Nothomb, en lisant Marianne Chaillan et ses réflexions, donc c'est autour de l'angoisse.
Oui.
Parce qu'il est beaucoup question d'angoisse. Il me semble qu'à vous lire, on se dit que vous devez être quelqu'un, ou à vous voir interviewer.
Je suis très angoissée.
Bon, d'accord. Alors, comment vous faites avec cette angoisse ? Comment est-ce que vous arrivez à la canaliser, à la dévier ? Je ne sais pas ce que
d'abord,
vous en faites.
Première chose, je n'y arrive pas. Je vis avec. J'essaie de ne pas me dérober. Il y a des choses qui me font terriblement, terriblement peur, et je vais quand même au-devant de ces choses.
Oui, voilà. Mais il y a la peur avec un objet et il y a la peur sans objet. Le fait du prince, par exemple, chez vous, c'est aussi peur sans objet.
La peur sans objet, je ne peux rien faire. Je vis avec, je ne me protège pas. Mais j'ai toutes les peurs. J'ai la peur sans objet. J'ai l'angoisse sans objet et j'ai l'angoisse avec objet. Je ne sais pas laquelle des deux est la pire, très sincèrement.
Deleuze dans leur philo, c'est une archivina et c'est l'abécédaire.
Moi, je crois que à la base de l'art, il y a cette idée que, ou ce sentiment très vif, une certaine honte d'être un homme qui fait que l'art, ça consiste à libérer la vie que l'homme a emprisonnée. L'homme ne cesse pas d'emprisonner la vie, il ne cesse pas de tuer la vie. La honte d'être un homme, l'artiste, c'est celui qui libère une vie puissante, une vie plus que personnelle. C'est pas sa vie. Qu'est-ce que c'est que, et là c'est pas du tout des choses abstraites, qu'est-ce que c'est qu'un grand personnage de roman ? Un grand personnage de roman, c'est pas un personnage emprunté au réel et même gonflé. Charlus, c'est pas Montesquieu. Hein. C'est pas Montesquieu, même gonflé par l'imagination géniale de Proust. Hein. C'est tout ça, c'est des puissances de vie fantastiques. Hein. C'est des puissances de vie fantastiques si mal que ça tourne, tu comprends ? Un personnage de roman, il a intégré en lui des mondes, c'est une espèce de géant, quoi. C'est une espèce de géant, c'est une exagération par rapport à la vie, mais c'est pas une exagération par rapport à l'art. Ben, l'art, il est production de ces exagérations. Et c'est par leur seule existence que c'est déjà de la résistance.
Ces propos de Gilles Deleuze incitent à un commentaire, à commenter ça, Amélie Nothomb.
J'avais jamais entendu, mais c'est sublime. Quand il dit que Charlus n'est pas Montesquieu, il a tout à fait raison. Charlus est un personnage énorme, absolument fantastique. Personne ne peut inspirer un personnage pareil.
Et vos personnages existent davantage, vos personnages de roman existent davantage que vous, ou c'est le contraire ?
Ils existent bien davantage que moi, bien évidemment. Alors je ne dis pas que je n'existe pas du tout, je ne dis pas que je suis du
jus de chaussette. On aurait du mal à vous croire.
Mais mes personnages vont beaucoup plus loin que moi.
Est-ce que le fait d'écrire vous permet d'exister mieux, d'exister plus, de faire peut-être même exister votre vie, de la faire lui permettre de se déployer ?
Oui, 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 oui et oui. Si je n'avais pas écrit, je pense que il ne me serait tout simplement rien arrivé. Je ne serais rien devenu, je n'aurais rien vécu. Tout ce qui m'est arrivé dans la vie, mais même pas, je ne vais même pas dire de bien, tout ce qui m'est arrivé dans la vie m'est arrivé parce que j'ai écrit.
Et est-ce que quand vous écrivez quelque chose, vous avez très vite envie de le consigner par écrit ? Quand une émotion vient à
vous ?
Pas forcément.
Il y a énormément de choses qui m'arrivent que je n'ai pas du tout envie d'écrire. C'est très bizarre d'ailleurs. Qu'est-ce qui fait que tout à coup, j'ai envie d'écrire ce moment-là, alors que d'autres, qui paraîtraient peut-être exaltants, ne m'inspirent strictement rien. Je pense que les moments de ma vie que j'ai envie d'écrire sont ceux que j'ai le moins compris.
Alors, je vais vous poser une question qui va peut-être vous paraître trop intime ou indiscrète, mais par exemple sur votre père.
Oui.
Ça a été un processus d'écrire sur lui. Ça a été long, j'imagine.
Ça a été vraiment un processus, mais un processus qui n'était absolument pas prémédité. Jamais, jamais je n'aurais imaginé que j'écrirais sur mon père. Mon père était un personnage dans mes livres, il n'était pas dénué d'importance, mais il n'était pas le sujet. Il a fallu qu'il meure pour qu'il devienne le sujet. Et voilà une chose à laquelle je n'avais jamais pensé. Ça m'a sidérée moi-même. J'avais une très belle relation avec mon père, tout se passait très bien, mais je ne me rendais pas compte qu'il était si important. Et puis il est mort et il est devenu formidablement important. Et donc le sujet.
Mais est-ce que, du coup, en écrivant sur lui, vous avez découvert des choses de lui
J'ai tout découvert. C'est en écrivant sur mon père que j'ai découvert pourquoi j'existais. Pourtant, je savais tout. Je savais qu'il avait été otage, je savais qu'il avait été négociateur. Je connaissais son mot d'esprit à la fin de la prise d'otage. J'avais pas compris qu'il m'avait mise au monde à cause de ce mot d'esprit qui lui était échappé juste après le peloton d'exécution. Il a fallu que j'écrive sur mon père pour que je me rende compte que j'étais née de ça, ce qui n'est pas une petite chose dans la vie.
Est-ce que dans 10 ans, Amélie Nothon, vous pourrez écrire autrement, par exemple, sur votre père ?
Je n'en ai aucune idée. Peut-être. Il sera toujours très important, c'est certain. I put a nickel in the telephone. Dial my baby's number. Got a busy line. Each time I tried, I got a busy tone. Not my baby's number, just a busy line. Called his uncle in Jamaica. Left a message with the baker. Even checked the number in the telephone book. Got so awfully, awfully worried. To my baby's house I hurried. When I looked inside, the phone was off the hook. And as I walked up to my baby then, I got my baby's number. He was busy in the parlor doing fine. Busy kissing someone else. All I was keeping busy, getting a busy
C'était Rose Murphy, Busy Line. Pierre-Yves Kivigère était venu dans l'heure philo le 17 novembre 2023 à l'occasion de la parution de son livre « Une philosophie du vin ». Entre connaissances intellectuelles et plaisir sensoriel, il nous fait partager son savoir et sa passion. Participent au banquet aussi bien Platon que Jean-Jacques Rousseau ou Clément Rosset.
France Inter, l'heure philo, Patricia Martin.
Bonsoir Pierre-Yves Kivigère.
Bonsoir Patricia Martin.
Vous êtes d'accord avec Jonathan Nessiter quand il dit que ça a quelque chose d'animal, le vin ?
Oui, je suis assez d'accord avec ça et je suis assez d'accord avec l'idée qu'il ne faut pas ranger le vin du côté d'une espèce d'érudition, de connaissance, où il faut boire les vins importants, les vins réputés, prestigieux. Je crois qu'il est important de savoir, évidemment, tout en se cultivant, en apprenant la complexité du vin, garder ce rapport. Bon, dans le livre, je l'appelle plus naïf qu'animal, mais je crois que animal, c'est un bel adjectif aussi.
Alors, votre livre, précisément, c'est une philosophie du vin que vous publiez chez Albin Michel. Boire rarement, est-ce que ça augmente le plaisir de boire ?
Oui, je dirais oui. En tout cas, c'est mon expérience. Et je crois que sur le fond, c'est aussi le genre d'expérience que à peu près tout le monde peut faire. Parce que boire tout le temps, boire tous les jours, boire tout le temps, c'est tomber dans une pathologie qui s'appelle l'alcoolisme. Mais en tout cas, boire tous les jours, c'est entrer dans une forme de routine dans la consommation.
De banalisation, presque.
De banalisation, de routine, d'habitude, qui n'est pas condamnable en soi, si on boit raisonnablement. Moi, j'aime bien que le vin soit quand même une expérience esthétique, avec évidemment cette dimension première, animale, naïve. Mais j'aime que ça soit une expérience esthétique et... Bon, on va pas tous les jours au musée, on peut voir un ou deux films au cinéma tous les jours ou en DVD, mais enfin, il faut qu'il y ait quelque chose d'un petit peu exceptionnel pour vraiment prendre le temps, déjà du recul, parce que si vous buvez tous les jours ce que vous avez bu la veille, vous êtes en train de le reboire, vous buvez autre chose, vous n'êtes pas dans la réflexion à propos de ce que vous avez bu. J'aime bien cette dimension un petit peu intellectuelle, c'est pas que ça, heureusement, mais un petit peu intellectuelle et donc philosophique du vin.
Ce soir, nous parlons du vin. On dit le vin. En réalité, ce sont des vins, non ?
Oui. Parler du vin n'a en réalité pas grand sens.
Même s'il y a des propriétés communes, finalement, à tous les vins. Ça, vous l'expliquez
c'est ça.
Bien dans votre
essai. On peut essayer de décrire ce qu'en termes philosophiques, on peut appeler l'essence du vin. Mais on arrive à des choses assez simples, en réalité. C'est-à-dire que c'est un produit issu du raisin, c'est quelque chose qui est issu de la fermentation, c'est quelque chose qui a une couleur.
Voilà, il y a une question d'ensoleillement, de pluviométrie.
Voilà. Mais à partir de là, on entre immédiatement dans la diversité.
Ouais.
En réalité, si vous avez un vin qui fait 1 degré d'alcool par rapport à un vin qui fait 20 degrés d'alcool, ce sont des produits tellement différents que l'on se demande si vraiment on peut appeler ça du vin. Alors, exactement, appliquer le même terme à ces deux choses. Mais on peut dire, voilà, il y a de l'alcool, c'est issu du raisin, c'est issu de la fermentation. Mais dès qu'on entre dans quelque chose d'un peu plus fin, dès qu'on essaie de caractériser un peu plus finement ce dont on parle, bien, c'est la pluralité qui s'impose. C'est-à-dire qu'il y a des vins et pas le vin, pas un vin. L'essence du vin est en réalité assez simple, assez sommaire à attraper. On la repère assez vite. Et après, connaître le vin, c'est connaître les vins, c'est connaître l'infinie diversité des vins.
Et y a-t-il une part de hasard dans le fait qu'un vin soit exceptionnel ?
Oui, évidemment qu'il y a une part de hasard.
C'est intéressant ça, d'un point de vue philosophique précisément.
Il y a une part de hasard. Le premier hasard, il est lié à ce qu'on doit subir quand on produit du vin. Produire du vin, c'est le travail d'un agriculteur spécifique, un vigneron, un viticulteur. Il est tributaire du temps qu'il subit, du temps comme tout agriculteur. Donc si c'est une année où il y a de la grêle et que la parcelle à côté, finalement la grêle ne tombe pas, peut-être que celui qui d'habitude fait le meilleur vin va cette année être un peu embêté pour produire quelque chose. Et son voisin qui d'habitude a peine à avoir quelque chose d'intéressant va faire un vin un peu meilleur que les gens de la commune parce qu'il a eu la chance, qui est une forme du hasard, il a eu la chance de ne pas recevoir la grêle, lui.
Mais justement, l'excès, il permet quoi ? Cette ivresse ou cette ivrognerie, comme il disait d'ailleurs, est-ce que ça permet de voir la réalité des choses de façon peut-être plus juste ?
Oui, Rosset a cette formule tout à fait surprenante qui est que tout le monde voit double, sauf les ivrognes. ce qui est une position qui peut dérouter un peu, mais il la justifie parce que Rosset, sous ses airs débonnaires un peu rigolos, était un philosophe extrêmement rigoureux. Il l'explique en disant que la personne qui est dans une situation d'ivresse très 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 avancée réussit à percevoir le réel dans, pardon pour la redondance, mais dans sa réalité, c'est-à-dire ce qu'il va appeler sa rugosité. Rien n'est facile, un chemin qui semble droit devient pour lui un chemin extrêmement complexe, avec des nœuds, il voit les choses de façon non intuitive, non immédiate. Pourquoi ? Parce que tout simplement, l'ivresse fait qu'il est décalé par rapport à tout ce que nous avons intériorisé, tout ce que notre éducation nous a permis d'intérioriser pour mieux saisir le monde, pour avoir des cadres de lecture du monde. Et une des choses qui intéresse beaucoup Rosset, c'est de montrer que ces cadres ont une part d'artifice telle que le vrai travail philosophique est d'être capable de déconstruire ces cadres. Donc, l'ivrogne, il se retrouve un peu jeté dans le monde, tel que le monde est vraiment, une fois qu'on l'a déshabitué de nos guides pour avancer, des chemins balisés qui sont liés à notre connaissance.
Avec le vin, c'est d'abord le plaisir, en premier lieu, de sentir et de goûter, et après seulement vient celui de connaître, de reconnaître, d'identifier les arômes.
Oui, enfin avant, après, il y a un moment où oui, c'est concomitant. Au début, sûrement.
Non, mais il faut réhabiliter les sens, un peu.
Bien sûr. Non, mais au tout début, quand on découvre le vin, c'est comme quand on découvre la sculpture, c'est comme quand on découvre la musique. Il faut quand même que ça vous touche, que ça vous terrasse. Il faut que ça soit immédiat.
Mais il faut
vous intellectualisez pas d'emblée.
Voilà. Bon. Il faut réhabiliter les sens. C'est un peu ce que vous faites d'ailleurs dans votre essai. À un moment donné, vous parlez de l'odorat et du toucher. Et pour l'odorat, vous vous appuyez sur la philosophe Chantal Jacquet, oui. Qui d'ailleurs est spécialiste de Spinoza aussi. Je sais pas, il se méfiait des effets du vin. Hein. Spinoza, il ne devait pas boire des masses.
C'est pas un gros buveur.
Voilà, et parce qu'il disait que la connaissance du vin, en tout cas, pâtissait de l'ivresse.
Et puis pour ce qui est vrai.
Et pour le toucher, vous parlez de Jean-Luc Nancy et de Jacques Derrida.
Oui, c'est un mouvement assez récent en philosophie, même si ça a une racine profonde qu'on trouve, par exemple, avec ce grand philosophe du XVIIIe siècle qui était Condillac. Mais c'est un mouvement très très marquant et très passionnant dans la philosophie française des 30 dernières années, cette réhabilitation des sens. On peut ajouter un autre sens qui lui aussi n'a pas eu jusqu'ici une grande dignité philosophique, qui est Louis. Mon collègue et ami Bernard Sèvres a écrit des très très belles choses sur la musique qui montrent qu'il faut redonner toute sa force à une philosophie de la musique qui soit pas uniquement quelque chose d'intellectuel, qui tienne aussi compte de l'effet sur l'oreille des instruments de musique. Bon. Alors tout ça pour dire quoi ? Tout ça pour dire qu'en effet l'expérience du vin peut être intellectualisée et je dirais pas doit être intellectualisé, mais si on veut en effet progresser dans notre connaissance du vin, comme on cherche à progresser ou pas dans la connaissance de la musique ou de la sculpture, on peut tout à fait se contenter de rester au niveau de ce plaisir un peu immédiat, ben il faut raffiner nos expériences. Et pour raffiner nos expériences, il faut faire retour sur elles, il faut réfléchir à ce qu'on est en train d'éprouver. Donc moi je suis moins pour dire qu'il y a d'abord le sens, puis ensuite l'intellectuel, que l'intellectualisation, plutôt que de dire qu'il y a une espèce d'interaction entre les deux. Et il y a un moment où l'intellect va se raffiner, va gagner quelque chose à multiplier des expériences sensorielles. Et les expériences sensorielles vont être d'autant plus intéressantes qu'on est capable de leur donner une certaine profondeur grâce à notre culture, grâce à notre réflexion.
Je voudrais revenir sur l'ivresse. Vous allez me dire que je suis obsédée, mais quand même c'est vachement intéressant d'un point de vue philosophique précisément aussi. L'ivresse, après tout, elle fait partie de l'expérience du vin. On en a déjà un petit peu parlé tout à l'heure. Et vous citez Guy Debord. J'ai d'abord aimé l'effet. Voilà ce qu'écrit Guy Debord. J'ai d'abord aimé l'effet de la légère ivresse, puis très bientôt j'ai aimé ce qui est au-delà de la violente ivresse, quand on franchit ce stade, une paix magnifique et terrible, le vrai goût du passage du temps.
Oui, Guy Debord, je ne sais pas si Guy Debord, qui est un philosophe que j'aime beaucoup, je ne sais pas si Guy Debord est très, très compatible avec la loi Evin, parce que là, ce que nous dit Guy Debord est vraiment de l'ordre de l'apologie d'une ivresse profonde.
Mais il y a des stades.
C'est des stades. Mais Debord est arrivé assez vite dans les stades les plus élevés et s'en est rarement éloigné dans l'essentiel de son existence. Ça ne l'a pas empêché d'être un écrivain de tout premier ordre. Mais moi, j'aurais plutôt tendance, même si j'aime beaucoup Guy Debord, j'aurais plutôt tendance à m'inscrire dans le champ des philosophes, non pas qui se défient de l'ivresse, ça serait un goût du paradoxe exagéré que d'écrire tout un livre sur le vin en se méfiant absolument de l'ivresse, mais j'ai tendance à penser que l'ivresse n'est vraiment qu'une des composantes de l'expérience du vin, et que c'est une composante qui a parfois un petit peu tendance à voiler, à dissimuler d'autres expériences tout à fait passionnantes par rapport au vin.
C'est le dangereux supplément dont parle Rousseau.
Je pense qu'il y a quelque chose comme un dangereux supplément dans l'ivresse. Et je pense qu'une chose très importante, c'est d'apprendre à se connaître soi-même suffisamment dans sa relation au vin pour atteindre le point intéressant de l'ivresse, c'est-à-dire un point qui n'est pas celui que loue Guy Debord, c'est-à-dire pas cette paix terrible qui est celle de la personne qui, pour le dire très trivialement, a tellement bu qu'elle s'effondre sur le canapé et ne se relèvera pas avant le lendemain matin, mais plutôt un moment où vos cadres de la perception vacillent un peu, où vous voyez les choses un petit peu différemment, votre parole se libère, ou vous développez une nouvelle rhétorique. Bref, il y a quelque chose comme un petit vacillement de votre personnalité qui est vraiment quelque chose d'intéressant. Mais ce moment-là, il arrive normalement assez tôt, sauf chez les pas grands buveurs, mais gros buveurs, qui boivent un peu trop et un peu trop souvent.
Et trop vite, peut-être.
Sinon, ça arrive relativement vite. Et je pense que vraiment, c'est un point, non pas à ne pas dépasser, je déteste les discours moralistes comme ça, si les gens veulent dépasser, ils dépassent, mais je pense que philosophiquement, ce qu'il y a d'intéressant, c'est vraiment de se tenir un petit peu à distance de ça. Parce que justement, Spinoza a raison, il y a un moment où, pour bien connaître le vin, en réalité, il faut se défier un peu de l'ivresse. Parce que ça nous empêche de connaître très bien le vin, l'ivresse.
Le contexte, le cadre pour boire du vin, c'est quand même drôlement important. Les convives aussi. Vous parlez même, vous, Pierre-Yves Kivigère, vous parlez de la musique qu'il peut y avoir là où vous buvez, un parfum tout à coup qui s'impose.
On le disait tout à l'heure, l'expérience du vin est quand même prioritairement une expérience sensorielle. Mmh. Donc si on vous abîme un peu votre contexte en noyant les expériences intéressantes que vous pouvez faire pour l'odorat des odeurs chimiques, parce que la personne qui vous invite a mis des bougies avec des parfums très très marqués.
Ça il faut pas.
C'est effroyable.
Au diable les bougies parfumées.
Si on a mis une musique assourdissante, elle happe votre attention. Si les verres sont des verres médiocres, le vin est moins bon dedans. Donc le contexte est extrêmement précieux. Évidemment, un vin ne se résume pas au contexte, même s'il peut arriver ponctuellement qu'il se résume à un contexte. Vous retrouvez quelqu'un qui vous est cher, vous ne l'avez pas vu depuis 2 ans, 3 ans pour telle ou telle raison.
Et le vin paraît meilleur.
Le Covid, par exemple, il n'y a pas si longtemps. Le vin que vous partagez avec cette personne, il est très bon, même si en réalité il n'est pas bon. Mais c'est pas grave, il se passe quelque chose.
Mais si on est plusieurs, l'appréciation du vin, la connaissance du vin, elle est modifiée.
Elle est modifiée et parfois ça peut être dangereux, c'est-à-dire vous pouvez vous retrouver à être un peu sous l'influence des autres. Alors les autres, vous pouvez les connaître directement, c'est des amis proches à vous dont vous vous dites qu'ils connaissent mieux le vin que vous.
Donc il y a les dominants et les dominés.
Il y a un peu les dominants et les dominés. Ça peut être des gens moins proches parce que voilà, vous avez lu un guide on vous a dit que tel vin était très bon, vous vous sentez un peu embêté en le buvant. S'il vous plaît pas trop, vous vous dites que vous vous trompez. Bon, c'est pour ça qu'il faut vraiment distinguer deux manières de boire du vin dans un contexte social. Dans un cas, vous avez absolument besoin de vous faire une opinion propre. Et là, il vaut mieux déguster seul.
Par exemple, les critiques, les œnologues, les vignerons aussi.
Les vignerons, bien sûr.
Ils dégustent seuls.
Il est nécessaire qu'ils dégustent seuls. Sinon, ils se retrouvent sous l'influence de plein de gens dont le nom ne va pas être, pour les vignerons, dont le nom ne va pas être sur l'étiquette. Si c'est votre nom sur l'étiquette, il faut quand même que vous ayez une forme de responsabilité. Mais en revanche, si vous n'êtes pas dans cette catégorie, c'est une expérience sociale vraiment passionnante que de boire à plusieurs et de confronter les points de vue. Mais c'est un jeu qu'il faut jouer honnêtement. C'est-à-dire, il ne faut pas que les les dominants, que ça soit les dominants économiques ou que ça soit les dominants de culture, écrasent les autres. C'est vraiment une situation déplaisante quand il y a le connaisseur et que le connaisseur vous dit « Ah non, tel vin, tu vas voir, il est très très bon » avant même que vous ayez mis le nez au-dessus du verre.
T'as pas le vin, dis-moi où je te saigne. Où tu préfères les arbres noirs dans l'ardoise, moi dans un dernier ciel. Tu veux rester voir ça? C'est la jolie maison qui nous a d'abord plu, mais c'était l'été et le bord de l'étang était net. Or désormais s'y amassent les peaux mortes des saules, les métaux des lambeaux de chandail. Et tes mots portent le sceau de mes mots méchants et de mes failles, le sceau de mes failles.
Belin, t'as le vin, t'as pas le vin. Avec Souleymane Bachir Diagne, et grâce à son érudition et son ouverture de cœur et d'esprit, nous entrons dans un monde de rêves, d'universalité, de pluralisme et de tolérance. Doux rêveur, ce précieux philosophe ? Certes non. Conscient de sa responsabilité de philosophe, alors là, 100 fois oui. Son dernier livre, qui est paru, donc, s'intitule « Universaliser, l'humanité par les moyens d'humanité ». Il est publié chez Albin Michel et souvenez-vous, c'était le 25 octobre dernier.
France Inter, l'heure philo, Patricia Martin.
L'universel, c'est un sujet philosophique, mais au fond, c'est un sujet tout aussi politique, en tout cas qui pousse forcément à l'engagement.
Absolument, c'est la raison pour laquelle, évidemment, il y a une analyse conceptuelle de la notion d'universel dans mon livre, mais il y a aussi beaucoup d'histoire. Et puis beaucoup de politique, justement. Il faut voir la politique qu'il y a derrière, et encore aujourd'hui. En effet, la question de l'universel, c'est une question profondément politique, qui est philosophique bien entendu, mais qui est également profondément politique.
Alors, nous allons écouter ensemble les propos du philosophe Francis Wolff. Il y a un lien, là, avec votre propre réflexion et la genèse de votre livre. Francis Wolff, c'était en octobre 2022.
Alors, l'universalisme, c'est l'idée qu'il y a des valeurs universelles pour tous les êtres humains, quelles que soient les différences qu'il y a entre les conceptions morales des uns et des autres, entre les cultures, entre les communautés, entre les manières de sentir des uns et des autres, leurs émotions, il y a des valeurs qui sont universelles. Et ça, ça s'oppose à ce qu'on peut appeler le relativisme. L'universalisme consiste à dire, oui, chacun a ses valeurs, chaque peuple à ses pratiques, chaque communauté a ses croyances, mais au-delà, il doit y avoir des valeurs qui sont universelles et qui devraient être reconnues par tous les êtres humains. Je prends quelques exemples. On a cité tout à l'heure l'idée de science, l'idée que ce qui est démontrable mathématiquement, ce qui est l'objet de la science expérimentale devrait être reconnu par tout le monde. Ça ne se discute pas, c'est pas une question de croyance, c'est pas une question d'opinion. La science a une vocation universelle. Autre exemple, les droits humains. Les droits humains ont été déclarés universels après la Seconde Guerre mondiale pour sortir de la barbarie. Ils ne sont pas reconnus partout, mais partout où ils ne sont pas reconnus, il y a des gens, il y a des personnes. Je pense par exemple à ce qui se passe aujourd'hui en Iran, qui luttent pour leur reconnaissance.
Souleymane Bachir-Diagne, cette vocation universelle de la science dont parle Francis Wolff, j'imagine, vous plaît. Les mathématiques, les civilisations communiquent notamment à travers l'algèbre. Et là, j'en viens aussi à vos propres études.
Effectivement, je suis tout à fait d'accord avec lui. Il faut en effet affirmer le pluriel du monde. Cela, nous parlions tout à l'heure du colonialisme. Le colonialisme est aussi une manière de poser une chape de plomb sur le monde, de décider qu'il y a une seule civilisation, une seule région du monde qui est porteuse naturellement de l'universel et qu'elle a à s'allonger de tout son long, si vous voulez, sur le reste de l'humanité. Elle doit, en quelque sorte, absorber dans sa propre substance, dans sa propre universalité, le reste du monde. La décolonisation, c'est restituer au monde son pluralisme. Mais une fois que cette restitution est établie, et d'ailleurs en même temps qu'on décolonise, il faut également universaliser, c'est-à-dire être ensemble orienté vers un même horizon d'universalité. Et c'est là qu'en effet, il nous faut revenir contre un relativisme, je suis tout à fait d'accord avec Francis Wolff sur ce point-là, contre un relativisme qui dit au fond à chaque culture est enfermée dans son contexte propre et ses valeurs ne se définissent qu'à l'intérieur de ce contexte. Il faut qu'il y ait un au-delà des cultures. Mais cet au-delà des cultures, ce ne sera pas une culture qui se décrète naturellement au-dessus de toutes les autres. Ce sera précisément la projection que toutes les cultures ensemble feront. Et sur ce plan-là, évidemment, la science est importante parce que la science, c'est véritablement ce qui crée un accord des esprits. On s'entend sur le fait que la somme des trois angles d'un triangle est égale à deux droites, parce que cela se démontre. Et d'ailleurs, un auteur qui a été un des auteurs sur lesquels j'ai commencé mon travail, une partie de ma thèse lui est consacrée, Leibniz, que je cite dans ce livre, dit « Réaliser pour les autres aussi l'évidence, cela seul est d'un géomètre ». Un géomètre, donc un esprit rationnel, un esprit qui argumente, un esprit qui démontre, doit pouvoir démontrer pour les autres aussi et créer un accord des esprits autour d'une science qui est acceptée par tous. Ceci est d'autant plus important que nous vivons une époque d'obscurantisme.
D'obscurantisme, de monde émietté, fragmenté, avec des affirmations plus, au fond identitaires à foison.
Où on ne s'entend même plus sur ce que sont les faits. Notre époque a quand même inventé cette expression très curieuse de faits alternatifs. Les faits, en principe, c'est ce sur quoi on s'entend. Et on peut diverger sur les interprétations, évidemment. Mais en effet, on l'a vu à l'occasion de la pandémie, à l'occasion du vaccin. Les forces les plus obscures, les plus obscurantistes sont venues, au fond, remettre en question l'idée même de science ou l'idée même de vérité. Et la première manière que nous avons de constituer une seule et même humanité, c'est quand même de nous entendre sur ce que sont les faits, de nous entendre sur la science, de nous entendre sur l'idée de démonstration et de vérification.
À partir de quel moment on a pu, si tant est qu'on puisse le définir, mais à partir de quel moment est-ce qu'on a pu écrire un récit européen de l'universalisme ?
Je crois qu'on peut dater cela de la Révolution française et de l'épopée napoléonienne. C'est ce que je fais dans mon livre, suivant en cela d'ailleurs un autre ouvrage de mes amis allemands qui ont écrit « La fin de l'universalisme » et ils datent l'universalisme de l'épopée napoléonienne. Ils mettent même la date de naissance de Napoléon, en fait, et ils estiment que cela se termine en 1989. Il y a des raisons historiques.
1989, c'est-à-dire la chute du mur de Berlin.
Il y a des raisons objectives pour cela. On peut en effet estimer que la Révolution française, en proclamant la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, mettant fin à l'idée monarchique en Europe, en mettant en place l'idée de république, a inventé des valeurs universelles et qui ont été portées par Napoléon. En même temps qu'il mettait fin à la Révolution française d'ailleurs, il exportait ces valeurs-là au-delà des frontières de la France. Cela, c'est un universalisme européen, disons, et qui déjà pose le problème de son universalité véritable. Parce que Napoléon n'a eu aucun mal, par exemple, à rétablir l'esclavage. Pourtant, les valeurs universelles qui étaient portées par la Révolution, l'article premier de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, suivant en cela Rousseau, déclarait que tous les hommes naissent libres et égaux en droit. On n'a pas envisagé, après 1794, qui avait tiré les conséquences de cette déclaration, on est revenu ensuite là-dessus, sur cette décision, et on a rétabli l'esclavage. Dans le même temps, il a combattu Haïti, qui était la première révolution menée par des esclaves et qui a réussi.
Et le peuple s'est mis debout.
Le peuple s'est mis debout. Et il n'est pas indifférent que Haïti se soit battu au nom de la même devise qui était celle de la France républicaine. Liberté, égalité, fraternité. Donc voilà, universalisme certainement, expansion des valeurs portées par la Révolution dans le reste de l'Europe, oui. Mais le côté sombre, le côté obscur est déjà là. Cela veut dire que universaliser, et c'est la raison pour laquelle j'ai choisi l'infinitif, le verbe à l'infinitif pour mon livre, universaliser, ça va supposer que l'humanité dans son ensemble s'entende sur une pratique d'universalisation d'un certain nombre de valeurs. C'est la raison pour laquelle la Déclaration des droits de l'homme, Francis Wolff a raison de dire que les droits de l'homme, c'est universel. Mais les droits de l'homme ont été déclarés en 1948. Pourquoi 1948 ? Parce que 1948, tout le monde n'y était pas, mais tout le monde, toutes les régions du monde étaient représentées. Même si l'Afrique, par exemple, était encore colonisée, il y avait des États africains, puisque l'Éthiopie n'avait jamais été colonisée, était présente. Il y avait la Chine, il y avait le Pakistan, il y avait l'Inde. Il y avait des pays qui étaient des pays dits du Sud global. Il est important de se dire que des nations différentes, venant de régions différentes, se sont entendues pour élaborer ensemble une déclaration qui soit au-dessus de chacune d'elles. Parce qu'après tout, cette déclaration négociée âprement, difficilement, était, on pourrait dire, internationale. C'était entre des nations. Mais on a quand même gardé l'adjectif universel. Ce n'est pas une déclaration internationale, c'est une déclaration universelle. C'est-à-dire que le produit final, ce texte sublime de la déclaration, en quelque sorte se mettait au-dessus de toutes les nations qu'il avait élaborées ensemble.
Prenons garde, disait Frantz Fanon, quand vous entendez dire du mal des Juifs, dressez l'oreille, on parle de vous. Quelle résonance !
C'est une phrase qu'effectivement qu'il faut rappeler. Je crois que je la cite dans
mon livre. Oh oui, vous la citez.
Je la cite parce qu'elle est importante. Elle était importante au moment où il l'écrivait. Elle est importante aujourd'hui à notre époque. Dans ce climat d'identitarisme où nous sommes, et un des aspects de l'identitarisme, c'est précisément une sorte de concurrence des mémoires et une sorte de saucissonnage des différentes formes de racisme. Par exemple, on dira que tel parti s'est dédiabolisé parce qu'il a cessé d'être antisémite, mais être anti-islam, anti-musulman et anti-noir, ça va. Eh bien non, ça ne va pas. Les racismes sont solidaires et à la solidarité des formes de racisme, il faut que nous puissions opposer notre propre solidarité humaine et ceci est important. Et vous savez ce à quoi ça m'a fait penser là tout de suite, parce que je l'ai enseigné récemment, la nausée de Sartre.
Dans la nausée Sartre, qui est un auteur qui vous a marqué, vous l'avez découvert grâce à la bibliothèque familiale.
Je pourrais même dire que c'est parce que j'ai lu Sartre que j'ai fait de la philosophie au lieu d'être ingénieur. Oui, et donc je reviens toujours à Sartre de ce point de vue-là, et je pensais à cet aspect dans la nausée. Vous savez, quand Roquentin, le personnage principal, est atteint de nausée, qu'il a ce mal-être, l'angoisse de l'existence, de la prolifération de l'existence, ce qui le calme, c'est un air de musique. Et ceci revient tout le temps dans la nausée. Un air de blues. « Some of these days », c'est ça le titre. « Some of these days, you will miss me, honey ». Et Roquentin dit que la signification de cet air de blues, c'est que aussi il a été écrit par un compositeur juif et chanté par une chanteuse afro-américaine. Vous voyez où je voulais en venir. Cette idée selon laquelle la vérité de ce morceau de musique tient à cette sorte de solidarité dans une souffrance qui relie, de ce point de vue-là, ceux qui ont été victimes de la discrimination et de la déshumanisation, le juif et la femme noire. Eh bien, il ne faut jamais oublier une leçon comme celle-là, surtout aujourd'hui. Scientifiquement, aujourd'hui, nous le savons, la race n'existe pas. C'est une construction sociale. Malheureusement, les constructions sociales, ce n'est pas parce que quelque chose est une construction sociale que cette chose-là n'a pas d'efficacité, précisément dans la société. Et c'est la raison pour laquelle lutter contre les formes d'aliénation et lutter contre le racisme, cela est important pour notre temps aussi, comme cela l'était au temps de Frantz Fanon.
Le décentrement, et ça vous en parlez à plusieurs reprises dans votre essai, le décentrement, il est essentiel. Surtout pas de position de surplomb, pas une histoire avec un grand H vu du haut de son cheval.
Mais oui, parce que le décentrement, c'est ce qui nous permet de nous ouvrir aux autres. D'entrer en relation, pour revenir encore à un concept de glissant. Il faut pouvoir sortir de son insularité et ne pas avoir une conception carcérale de l'identité. Se claquemurer dans son identité, c'est en effet fragmenter le monde et aller toujours vers davantage de fragmentation. Et la capacité de se décentrer, c'est la capacité de véritablement entrer en relation avec l'autre, parce qu'on peut l'écouter. Et la meilleure manière de l'écouter, c'est de pouvoir se mettre à sa place. Et ça, c'est la disposition philosophique par excellence. Et c'est quelque chose à quoi nous prépare d'ailleurs le multilinguisme. Pour revenir à ce que disait Édouard Glissant, j'écris en présence de toutes les langues du monde. S'aviser que le monde parle des langues multiples et que donc ma langue, celle que je parle, n'est qu'une langue parmi d'autres. Elle est particulière. Et le meilleur moyen de savoir que ma langue est particulière, c'est d'en savoir une autre. Parce que si je regarde ma langue du point de vue d'une autre langue, je me rends compte de la manière dont elle est une langue particulière. Parce que ses manières de dire ne sont pas les manières de dire d'une autre langue. par conséquent, la manière dont elle me met en relation avec le monde n'est pas la manière dont je serais en relation avec le monde si je parlais une autre langue. Et donc, cette capacité de se décentrer, c'est véritablement la capacité d'entrer en dialogue, d'argumenter, de réaliser pour les autres aussi l'évidence, comme nous le disions au début de notre conversation.
C'est l'épreuve de soi par l'autre et de l'autre par soi.
Exactement.
C'est Merleau-Ponty, ça.
C'est effectivement Merleau-Ponty. Et il a mille fois raison. D'ailleurs, il le dit dans un passage où il dit que notre époque n'est plus celle d'un universel de surplomb, mais d'un universel latéral, où nous nous mettons à l'épreuve les uns par les autres. Parce que, et c'est cela la notion de traduction, la traduction c'est ce qui nous permet d'entrer dans l'expérience de quelqu'un d'autre, d'entrer dans une autre culture. Les cultures se traduisent, bien qu'il faille tenir compte de l'intraduisible, mais en dépit de l'intraduisible, les cultures se traduisent. Aucune culture, en tant qu'elle est humaine, ne m'est étrangère. Et ça, il faut revenir à cette vieille parole de l'humanisme, en effet.
Merci Souleymane Bachir Diagne, et encore bonne année à tous. Mathieu Conquet, juste après les informations, et je remets le son.